Salut à tous,
ça y est, on y est, vu du bon, saison 3, épisode 1, épisode 2 reprise, où on va revenir exclusivement sur les équipes de Ligue 1 qu'on a vues ce week-end ou ces dernières semaines pendant la préparation. Et pour ce numéro 1, malheureusement on n'a pas l'équipe type, pour cause de forfait et de vacances. Christophe Kuchli n'est pas avec nous, en espérant qu'il, Raphaël, il ne négocie pas un transfert.
Non mais là je crois qu'il nous fait une Cavani comme avec Laurent Blanc, tu sais, il reste un peu longtemps en vacances parce qu'il a été vexé par nos remarques. Il sait qu'on lui a pas donné le capitana, ni le poste de titulaire en attaque, il est un peu déçu.
Ouais, c'est vrai que on n'est pas sur un joueur très facile à gérer.
Non, mais il a fait une pré-saison moyenne et voilà, il méritait pas d'être titulaire aujourd'hui.
Voilà, il est pas dans le groupe. Bref, on t'a reconnu, Raphaël Cosmidis. je suis Florent Tonuti et on va démarrer tout de suite par le champion de France, l'AS Monaco, qui a vécu une intersaison assez agitée quand même sur le plan des départs et des arrivées. Ça a pas mal bougé, ça risque encore de bouger. Monaco qui a quand même réussi son entrée en matière en battant Toulouse. 3-2 vendredi soir avec 2 buts sur coup de pierrette, je crois. Ouais. Mais Toulouse qui a mené 2 fois, donc c'était pas non plus très facile pour les monégasques, même si quand on regarde les expected goals sur ce match, Toulouse finit je crois à moins de 0,5 tandis que Monaco finit au-delà des 2. Donc victoire logique, difficile mais totalement logique et méritée, Raphaël. Et une équipe de Monaco qui part un peu malgré tout dans l'inconnu.
Ouais, et surtout son coach qui part dans l'inconnu, parce que je pense que la plupart de ses joueurs savent ce qu'il va faire, mais que lui ne sait pas trop avec qui il va pouvoir compter le 31 août. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est que là, il aligne un 11 où Lemar, Mbappé, Falcao sont titulaires devant, avec Rony Lopez sur l'aile droite en remplacement de Bernardo Silva. Donc tu as 3 des titulaires qui sont allés en demi-finale de Ligue des Champions il y a quelques mois, c'est plutôt encourageant. Mais 2 de ces 3 titulaires ne sont pas sûrs de rester. Lemar est suivi par Arsenal, par le Barça, et du côté de Mbappé, il y a à peu près toute l'Europe qui est sur le dossier si le gars est disponible. Donc c'est très compliqué pour Jardim de penser long terme avec une équipe comme ça. Donc là, il a une équipe titulaire qui, franchement, a plutôt montré des bonnes choses dans le jeu, comme elle avait montré des bonnes choses d'ailleurs contre Paris au Trophée des Champions. C'était une performance assez encourageante, avec un Moutinho au milieu et Pat Tillemans, Moutinho qui a d'ailleurs été décisif sur 2 coups de pied arrêtés. Donc il y a toujours de la qualité dans cette équipe, il y a toujours certaines qualités qu'on retrouve, par exemple les déplacements de Lemar pour revenir dans l'axe, la qualité d'élimination de Mbappé, Falcao de haut but qui continue de progresser malgré son âge dans ce domaine. La question que j'ai, c'est qu'est-ce qui va se passer du côté des joueurs qui sont déjà partis. C'est-à-dire, est-ce que Rony Lopez va être sur le long terme un bon remplacement à Bernardo Silva? Moi, je l'ai trouvé plutôt performant sur ce premier match. Je trouve qu'il reprenait assez bien le registre de Silva, c'est-à-dire repiquer vers l'intérieur, trouver une bonne passe pour un partenaire. Et surtout, il a retrouvé un peu cette vivacité, Rony Lopez. C'est un joueur qui a subi beaucoup de blessures, mais je l'ai trouvé franchement en forme sur ce match-là. J'ai plus de questions sur Jorge, le latéral gauche de l'autre côté, parce que Benjamin Mendy était un membre essentiel de l'attaque monégasque la saison passée. Il prenait souvent le couloir quand Lemar restait dans l'axe, et Jorge, c'est plutôt un joueur qui aime revenir dans l'axe, comme le ferait Marcelo un peu au Real Madrid. C'est tous les deux des Brésiliens dans ce registre, et qui sont très très forts techniquement, et ils aiment bien repiquer dans l'axe plutôt que prendre leur couloir pour déborder. Donc ça, c'est une occupation de l'espace que Jardim va devoir gérer si Lemar reste, et ça, c'est encore toute la question. Qui va rester, qui va venir, qui a envie de rester, parce que ça va être important aussi dans la performance des joueurs. Donc si c'est bien parce que c'est une première victoire, je pense que le boulot de Jardim en ce moment est particulièrement ardu.
Ouais, moi personnellement, on avait discuté ensemble après le titre de Monaco en avril ou mai dernier, je sais même plus quand est-ce qu'il était tombé officiellement. Mais bref, on a une spéciale sur l'AS Monaco et on avait beaucoup parlé de leur 4-4-2 et de leur animation offensive, ouais, en disant que ce qui faisait sa grande force, c'est que il avait des joueurs qui était capable de tout faire ou presque, ce qui rendait le système hyper fluide et très difficile à lire en fait, parce que un Lemar par exemple, il peut demander côté, il peut centrer, il peut repiquer intérieur, faire des différences, enfin il peut tout faire. Bernardo Silva c'était pareil de l'autre côté, et les latéraux, même s'ils avaient leurs préférences, aussi étaient capables un petit peu de s'adapter, sans parler évidemment des attaquants. Là moi je pense que le gros chantier pour Monaco, ce qui me laisse penser que l'équipe est sur une grosse reconstruction à long terme, et ça sera peut-être sur 2-3 ans avec une nouvelle salve de joueurs qui vont arriver s'il y a encore des ventes d'ici au 31 août. et notamment une grosse, puisque je pense que Mbappé, c'est la plus probable à l'heure actuelle. Quand tu perds Bernardo Silva à droite, que tu perds Benjamin Mendy à gauche, et que déjà tu t'attaquais énormément par les côtés, par des centres la saison dernière, tu perds déjà beaucoup. Mais on n'en parle pas beaucoup, mais quand tu perds, à mon sens, Germain au milieu, qui par sa disponibilité est toujours mobile, toujours à la recherche d'espace dans lesquels offrir une solution, et surtout, c'est un joueur qui va... Il reçoit la balle, il la redonne directement. Ça offrait aussi une, ça favorisait aussi le fait que Monaco ait une circulation de balles très fluide dans le camp adverse. Et quand on partait d'une fixation de Bernardo Silva à droite, on pouvait arriver très vite à gauche avec un déboulé de Mendy. Et je pense que Monaco a perdu avec Germain ce joueur-là, parce qu'au final, Germain a eu un temps de jeu de titulaire la saison dernière.
Ouais, c'est ce qu'il disait dans une interview. Il a débuté 27 matchs en Ligue 1. La plupart en première partie de saison, parce qu'ensuite Mbappé a explosé, mais il a été très important dans une rotation à 3 attaquants qu'aujourd'hui Monaco n'a plus.
C'est ça, ils n'ont plus cette rotation et ils n'ont plus ce profil-là, parce que Mbappé, c'est un joueur qui va chercher les espaces, donc qui va se balader sur tout le front de l'attaque pour recevoir le ballon. Et Falcao, tu parlais un petit peu de son jeu de haut but, mais c'est pas quelqu'un qui a la mobilité qu'avait Germain et qui la capacité d'offrir 90 minutes des efforts et toujours des relais entre les lignes, etc. Et je pense qu'aussi que la perte de Germain peut peser, et je serais pas surpris d'ailleurs que, de toute façon, s'ils devaient se séparer d'Mbappé, ils iraient forcément chercher un autre buteur.
Ouais, bah surtout que derrière, le profil de Carrio est un peu redondant avec celui de Falcao.
C'est ça.
Et c'est beaucoup moins bien que Falcao, il faut le dire.
Oui. Et donc, je serais assez... je suivrais d'assez près s'il devait vendre Mbappé, voir le profil qui remplacera à la fois Germain et Mbappé au final. Parce que il me semble que la meilleure solution pour Monaco serait d'avoir un joueur capable d'offrir du liant. Par contre... J'en ai pas parlé exprès, mais le départ de Bakayoko, pour moi, bon, c'est sur 90 minutes sur le trophée des champions, mais Tielemans va le faire oublier très vite. Et
Moutinho a déjà fait un match là contre Toulouse où tu te dis bon, le départ de Bakayoko, c'est moins grave que n'importe quel autre départ dans le 11 titulaire de Monaco en dehors de Sidibé peut-être.
Ouais. Après,
parce que c'est un joueur dont c'est un joueur de qualité évidemment, mais dont le registre, je trouvais. Peut-être le plus facile à remplacer, quoi. Et puis tu peux même changer de registre. Et vu que t'as deux milieux, Fabinho sait s'adapter. Si tu le conserves, lui, il peut faire d'autres choses. Il peut. C'est comme s'il y avait un curseur en fait sur Fabinho et tu lui dis, bah toi, t'as besoin de faire ça parce que ton partenaire c'est lui. Aujourd'hui, t'as besoin de faire ça parce que ton partenaire c'est lui. Tu vois, je pense que Bakayoko c'était vraiment le milieu dont tu pouvais te passer cette saison.
Ouais, non. Pour moi, c'est leur meilleure vente de l'été. Et comme je disais, Tielemans sur le match face à Paris,
était très bon.
Il a montré tout ce qu'il savait faire, c'est-à-dire peut-être une base Bakayoko et plus encore parce que c'est un joueur qui voit avant aussi, qui a une qualité de passe assez incroyable.
Il est clairement plus proche du registre Moutinho jeune que Bakayoko jeune, quoi.
Avec un volume encore plus intéressant sans doute. Mais et en fait, au final, par rapport à toute notre discussion, je pense que Monaco va faire un début de saison. D'ailleurs, je l'avais écrit dans mon analyse après le match contre Paris. Finalement, il gagne contre Toulouse avec notamment deux coups de pied arrêtés. Mais voilà, en étant sans doute moins flamboyant dans le jeu et sur attaque placée, et on va retrouver le Monaco de la première campagne européenne, ouais. C'est-à-dire hyper solide parce que le 4-4-2 lui n'a pas bougé. C'est le cadre est encore posé et ça fonctionne très bien pour les 30, enfin. Pour récupérer la balle, jouer les transitions, etc. Mais ouais, en attendant peut-être de nouvelles arrivées ou que de nouveaux automatismes se mettent en place. Voilà, Monaco sont moins flamboyant, qui va peut-être perdre un peu plus de points en Ligue 1, mais qui va se rabattre sur ses forces, c'est-à-dire le jeu de transition et les coups de pied arrêtés aussi.
Si à l'inverse, Monaco décide que le départ à faire, c'est Lemar et de conserver Mbappé, je pense que ça peut aussi faire très très mal par contre au projet offensif de Monaco. Parce que t'auras pas de joueurs sur le marché de la qualité et d'un profil complet comme celui de Lemar. Tu vas avoir, et d'ailleurs, quand tu vois les rumeurs des joueurs que Monaco suit, c'est beaucoup de joueurs de percussion qui vont revenir vers l'intérieur et frapper. Et Lemar a tellement plus de choses que ça que je le vois mal être remplacé rapidement dans ce projet.
Je suis assez d'accord là-dessus que Lemar est irremplaçable à l'heure actuelle pour Monaco, vraiment, parce que c'est un petit peu comme. Comme tu sais, on avait parlé de série à Nice.
C'est la
même chose.
C'est un profil, tu le chopes pas cher, tu te dis oh là là, ok, on a le coup qu'on a réussi, Mais si tu prévois pas un truc d'une recherche intensive pendant qu'il est là pour retrouver un remplacement directement avec, après son départ, tu vas souffrir pendant quelques temps parce que c'est pas des joueurs qui apparaissent sur le marché tous les 6 mois, quoi.
C'est sûr. Bon, on a fait le tour de Monaco?
Je pense qu'on a fait le tour pour l'instant, Monaco. Mais
Allez.
voilà. Bah, juste sur les expected goals de Toulouse, parce que t'as dit que c'était que 0,40. C'est aussi l'avantage d'avoir un joueur comme Delors, c'est que tu peux sortir d'un match avec très peu d'occasions et
Ouais, et
avoir
deux
marqué
buts,
deux buts.
ouais.
Parce que, alors, il a fait une passe à Machache et un tir, mais surtout son tir, c'est typiquement le tir à la Delors. C'est une position compliquée à l'entrée de la surface, et puis il te met un ballon petit filet qui est quasiment imparable. C'est la qualité d'un attaquant comme ça. Et c'est aussi grâce à lui qu'ils se sont maintenus la saison passée.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on peut. Tu parles du deuxième but, mais ça, la passe décisive et la combinaison sur le
Et
premier
pas mal
est assez
d'ailleurs, ouais.
intelligente, ouais.
Ça a bien piégé la ligne monégasque sur le hors-jeu, surtout.
Ouais, qui a surtout l'habitude de remonter dès que la balle ressort, et là,
Ah,
ils
c'était
sont
à
bien fait
suivre.
avoir. Ben on va enchaîner, Raphaël, avec le PSG. T'as regardé attentivement. Moi, j'étais pas très attentif devant ce match, je dois l'avouer. J'étais perturbé par l'arrivée d'un certain joueur brésilien. Tu sais, je m'en
Ouais.
remettais pas devant mon écran, donc du coup.
C'est vrai qu'il y a une présentation fabuleuse, même si tu as été mauvaise langue et t'aimes pas, c'est sûr que ça vaut pas la présentation de l'heure âgée, mais c'était quand même pas mal. Mais je me suis surtout concentré sur le match après, puisqu'il y avait quand même un match de football à 17h15 au Parc des Princes.
Match
Match contre
décalé pour faire la
Amiens.
fête avant, d'ailleurs.
Ouais, écoute, on ne dit pas non dans ces cas-là. Et c'était un premier match plutôt positif, alors que d'habitude le PSG commence assez mal ses championnats, souvent par des matchs ennuyeux et laborieux. Là, j'ai trouvé que surtout les 45 premières minutes étaient vraiment positives. Alors, on a vu encore une fois, et je pense qu'on l'avait déjà vu contre Monaco, et quel que soit d'ailleurs le poste qu'il prend au départ sur le papier, que Dani Alves allait vraiment révolutionner le côté droit de cette équipe. Je pense que même si tu mets Lucas devant lui, il va réussir à lui faire combiner en une touche des actions, parce qu'il a une telle participation au jeu, et je pense d'ailleurs que ça se voit sur les pass maps de Elfstegen, ou je sais pas quoi, Eleventhegen, enfin vous le trouverez en tapant 11 TEGEN sur Twitter, mais il a pris une importance, mais déjà capitale dans cette équipe. Je crois qu'il touche autant de ballons que Verratti quasiment, pour montrer que finalement le ballon va être attiré du côté droit du PSG. Donc ça, c'est la première chose, c'est cet apport de Dani Alves qui est vraiment important et qui permet à des joueurs comme Pastore, comme Di Maria, comme Verratti de trouver un partenaire supplémentaire pour combiner en une touche de balle. Et ça a mené à beaucoup de, pas forcément d'occasions de la part du PSG, mais de présence dans la surface adverse, avec des joueurs qui touchent le ballon dans la surface adverse, qui arrivent pas forcément à se mettre en position de tir, mais en tout cas qui arrivent à jouer très très haut.
Moi,
Et la difficulté juste dans ce cas-là, c'est que Cavani n'arrive pas vraiment à s'insérer dans ces combinaisons-là. Et que malheureusement, quand t'as personne qui peut combiner de haut but, bah, c'est difficile d'enchaîner des passes vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et le registre de Cavani dans ces cas-là pose problème.
c'est ce que je me disais quand sur PSG Monaco notamment, mais sur quelques séquences face à Amiens, je m'étais relevé et je m'étais dit, ah ouais, c'est pas mal ça quand même. C'est ce côté droit avec Verratti, Daniel Alves. Va falloir se lever tôt pour leur prendre la balle, quoi. Ça va
Ah non,
être un
mais
truc.
sur les sorties de balles qu'ils font parfois, si tu te dis, oh, bah Dani Alves, c'est là, c'est bon, il est bloqué, on est à deux contre lui sur la ligne de touche, et puis il donne le ballon à Verratti, qui donne le ballon à Mota, qui donne le ballon à Pastore, et t'as perdu 40 mètres, quoi.
Ouais.
Et c'est un peu ce qu'avait apporté Draxler il y a 6 mois quand il est arrivé au
Oui, c'est vrai.
PSG, c'est que tu le pressais, tu le poussais dans le dos, et puis il perdait pas le ballon.
Il avait
Donc
fait
finalement, tu ressortais, t'allais à l'opposé, et à chaque fois, Paris faisait reculer le bloc comme ça.
avec cet
Ça,
excellent match face au Barça, le match aller,
Bah
il
ça,
avait
et si
été
des
très
deux
très bon.
côtés, on va devoir en parler, mais Neymar qui joue à la place de Draxler et qui joue dans l'axe, ce sera le même délire, c'est que pour lui prendre le ballon, limite, je pense que si tu vas le presser, tu fais une erreur, parce qu'il va t'éliminer. Donc ça va être un autre problème, c'est que le PSG a enfin trouvé des joueurs qui vont à son style de jeu. Et ça paraît fou parce qu'ils ont recruté pendant des années des joueurs qui collaient pas, des Stambouli, même Berchiche, je pense qu'il collera pas vraiment au projet de Parisien, mais des joueurs comme ça, là tu prends des joueurs du Barça finalement. Tu imites le Barça depuis des années. Il n'y avait pas plus simple que prendre des joueurs du Barça. Et ça s'est même vu dans des séquences où ils arrivent à sortir le ballon de manière très propre face au pressing haut d'Amiens qu'il a fait quelques fois. C'est que dès que tu passes le premier rideau, si tu as des joueurs comme Pastore, comme Di Maria qui vont enfin avoir cette volonté d'accélérer le rythme après avoir passé le premier rideau qui n'existait pas à l'époque de Laurent Blanc par exemple. Mais t'as d'énormes occasions dans la profondeur parce que t'as 4-5 joueurs d'Amiens qui courent vers leur propre but pour essayer de gérer la profondeur. Et c'est comme ça que Paris marque son deuxième but avec Pastore qui marque dans le but vide. C'est que le premier pressing est battu, ballon dans la profondeur pour Cavani, centre pour Pastore et but 2-0. Et ça, c'est des séquences faciles que Paris vraiment doit concrétiser pour se rendre les matchs, encore une fois, faciles parce que pendant des années, ils ont marqué quasiment que des buts sur attaque placée. Et tu te rends à la chose difficile et maintenant que t'as plus Ibra, tu peux plus te permettre ces choses-là.
Oui, d'ailleurs, Paris qui termine ce match face à Amiens avec 2,57 en termes d'expected goals, donc c'est correct.
C'est pas mal, ouais.
Amiens à 0,32. Justement, sur Paris, moi, ce que j'avais relevé aussi, c'est la position de Verratti. On va rester dans les stades de Elftegen Elf, du coup, puisqu'il y a de 11 à la fin. Habituellement, donc, il publie donc c'est les expected goals de chaque match et aussi les pass maps. Et habituellement, la pass map du PSG.
Alors, expliquons que c'est les positions à peu près moyennes, selon les positions dans lesquelles ils ont fait les passes, les interventions, etc. C'est tout un truc comme nous, on ne sait pas du tout faire.
C'est la position moyenne et ensuite le point représentant joueur est plus ou moins important en fonction du volume.
Avec les flèches pour la direction des passes et des flèches pour la mobilité, des choses comme ça. C'est assez complet comme truc.
Ouais, ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble, surtout quand elle se répète, on distingue les circuits préférentiels, etc. Bref, donc sur ce match du PSG, et avant d'habitude sur ces pass maps, Mota et Verratti sont sur la même ligne, voire même dans la même zone, voire même collés, et les deux points ne forment qu'un sur certains
matchs.
Ils
sont superposés, ouais.
Et là, c'est vrai que sur ce match-là face à Amiens, et en plus, au-delà de la pass map, ça se voyait vraiment sur le terrain, surtout en première mi-temps. On avait un Marco Verratti qui joue aussi haut qu'Adrien Rabiot cette fois, et un Mota qui est quand même clairement plus bas.
Et on a vu très souvent Verratti en position de frapper, hein. Il l'a pas fait, mais il a été très très souvent à 18 mètres du but. Avec le ballon dans les pieds, je veux dire.
Et ça, on en avait assez parlé la saison dernière, et c'est personnellement ce que j'attends de Verratti depuis la saison dernière. Il l'avait fait en cours de saison, et on va dire que l'élimination face au Barça a mis fin à cette construction du projet, en fait, cette évolution. A clairement mis fin à ça. Et là, on a l'air d'être reparti. Alors, contre Monaco, il y avait eu un quart d'heure très compliqué où il se marchait dessus vraiment avec Mota. On avait le mauvais PSG où on avait des milieux de terrain qui voulaient tous demander la balle derrière la ligne de pression.
Et qui, du coup, pendant la pré-saison, c'était un peu comme ça aussi.
Et qui, du coup, se prenait le pressing. Et là, face à Amiens, voilà, une équipe dans le bon sens d'entrée. Alors, évidemment, il va falloir confirmer, il va falloir voir comment ça va se passer avec l'intégration de Neymar, etc. Mais c'est vrai que ce premier match-là, sur un point clé, à mon sens, pour la progression du PSG, c'est-à-dire cette position de Verratti et son rendement, on va même dire, dans les 30 derniers mètres, c'est quand même assez positif, même si ça n'a pas été constant sur 90
minutes. Ouais, ça a duré 45. Ensuite, il y a eu des retours de Verratti, de Di Maria, qui sont venus chercher les ballons, mais littéralement dans les pieds de Marquinhos ou de Silva. Où tu voyais Marquinhos qui pouvait avancer, et puis d'un coup t'avais Verratti qui apparaissait, qui lui disait vas-y donne-moi le ballon, et il donnait le ballon dans les mais c'était même pas une passe quoi, c'était un tiens vas-y c'est bon, allez va jouer avec ton ballon, tu vois. Mais c'est des trucs, ça retombe dans ses travers assez fréquemment, et ça va être le souci que Emery va devoir gérer, c'est discipliner ces désirs qui sont naturels, en fait c'est des joueurs qui jouent comme ça, qui ont joué comme ça toute leur vie et qui ont ce réflexe là, et c'est un souci qu'a retrouvé Paris en deuxième période, c'est qu'il y a plus tellement de joueurs qui se mettent entre les lignes, surtout derrière le milieu adverse, en dehors de Pastore qui a été très mobile. Il y a Rabiot qui le fait de plus en plus, parce que comme il ne veut pas jouer 6, je pense que maintenant il a compris qu'il fallait qu'il joue vraiment 8. Il le fait de plus en plus. Le souci que j'ai avec Rabiot, c'est qu'il se positionne, en fait, il se positionne plutôt bien entre les lignes, mais son premier contrôle à la réception du ballon est toujours bizarre, en fait. C'est-à-dire que parfois il va contrôler avec le mauvais pied, par exemple, il va recevoir le ballon sur la côte, la moitié droite du terrain, et il va contrôler pied gauche, ce qui forcément va l'orienter vers la ligne de touche. Et après, tu peux pas faire grand-chose, surtout Daniel Alves, c'est plus forcément ce joueur qui prend la profondeur dès la première séquence de préparation. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il n'utilise pas vraiment bien son corps quand il est positionné entre les lignes. Pourtant, il est costaud et je pense qu'il pourrait utiliser au moins ses épaules pour se protéger, et il ne le fait pas vraiment. Et quand tu compares avec des joueurs comme Seri, comme Verratti, qui sont limite bossus quand ils reçoivent le ballon entre les lignes, ou qui mettent le cul en arrière pour se protéger, Rabiot, il est hyper raide. Alors c'est peut-être parce qu'il est grand aussi, mais c'est un truc qu'il peut apprendre et qui lui permettrait au moins sur sa première touche de pas le perdre, parce que parfois souvent il le contrôle, son corps est pas équilibré, son contrôle est pas bon, et sur la première touche de balle finalement le ballon va un peu loin. Alors ça a un peu plus d'élégance que Matuidi, mais finalement les conséquences sont les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il va devoir corriger.
Je l'avais un peu remarqué d'ailleurs contre Monaco, ça aussi, où il perd deux ou trois ballons, je pense, notamment une mauvaise orientation, ou alors à l'impact il se faisait manger.
Ce qui est bizarre, parce que défensivement il a trouvé cet impact par rapport au début de sa carrière. C'est un peu rassurant, je trouve, parce que finalement le gars a 22-23 ans maintenant, on en parle comme d'un crack depuis longtemps, et finalement il a encore énormément de progrès à faire, donc c'est plutôt rassurant pour un entraîneur, je veux dire. Il dit il est avec moi, et puis il y a encore plein de domaines où il peut progresser.
Évolution à suivre aussi, de façon de Rabiot. Je pense qu'on a fait le tour du PSG.
On a fait le tour,
on va passer, de toute façon on va assez en parler, je pense, dans dans le courant de la saison et voir dans les prochains épisodes.
Donc oui, on va passer. On parlera d'Amiens quand il y aura un adversaire un peu différent en face, je pense. Ouais. Parce que là, c'était difficile de juger dans un projet aussi difficile à mettre en place pour première journée.
On va passer à Lille, le LOSC qui a battu Nantes 3-0. Alors une victoire, si on regarde les expected goals, si on a vu le match, aucune contestation possible dans ce ouais. duel. Après, voilà, Nantes a eu deux grosses occasions, dont une à 0-0 où Nakulma met le ballon à côté, personne ne sait encore comment. où il est tout seul devant Maignan qui est au sol. Donc Lille au niveau des expected goals ça finit à 1,8, Nantes termine à 1,2 notamment grâce à cette grosse occasion pour Maignan et l'occasion de Rongier je crois en fin de match, mais là le score était déjà fait en tout cas dans mon souvenir. Donc voilà, une très belle entame on va dire du LOSC de Bielsa. Ah, oui, je te laisse sur le match et puis
non,
après
mais ce qui est au-delà des chiffres statistiques et de la performance en elle-même, c'est qu'il y a surtout déjà cette identité de jeu visible et ça c'est pas forcément le cas des équipes qui ont un coach depuis ça fait quoi 2 mois maintenant parce qu'il a commencé très tôt la pré-saison.
Ah, 19
un mois
juin.
Et demi. 19 oui,
juin,
enfin peut-être le 20 juin parce qu'il était pas le premier jour.
Oui, mais... c'est vrai.
mais tu vois, il y a déjà cette, et on l'avait vu en pré-saison, de toute façon on avait vu la préparation, ce qui était très bien c'est que LOSC diffusait les matchs gratuitement sur son Facebook et c'était intéressant, mais il y avait déjà cette volonté claire de retrouver tout ce qui fait en fait une équipe de Bielsa. Et là on a vu c'est que le Nantes jouait en 4-4-2. Et Lille était évidemment à 3 derrière parce que c'est la règle de Bielsa. Et tu retrouvais ce 3-3-1-3 en quelque sorte, mais hyper écarté. Parce que t'as les latéraux et les ailiers qui sont hyper amis sur les côtés où c'est vraiment des duos. Et c'est très Van Gaal, je pense, de ce côté-là. Et c'est là que tu vois que Van Gaal a d'énormes influences sur Bielsa. C'est que le jeu passe par le côté tout le temps, par des combinaisons à 2, à 3. Mais s'il passe que par l'axe, il y a un souci. Et c'est pour ça que Thiago Mendes, en ce moment-là, on l'avait vu en pré-saison et tu l'avais déjà bien kiffé, Flo.
Ouais.
Mais il se révèle comme un joueur d'une finesse et d'une activité. C'est dur de mélanger les deux souvent. Il y a toujours un mec, il y a un Regista comme Mota qui est super fin, mais qui par contre défensivement est en difficulté. Là, on est sur un joueur qui mélange les deux et c'est rare. Il a 25 ans. C'est un super recrutement qu'a fait Lille et c'est le joueur peut-être qui incarne ce que Bielsa. Comment Bielsa voit le foot et surtout comment il le met en place sur le terrain, c'est qu'il y a énormément de joueurs sur les ailes, t'as tes 3 centraux qui vont relancer, et surtout Junior Alonso qui a fait un bon match dans ce domaine et qui est plutôt doué avec son pied gauche, et puis tu as ce joueur-là, ce joueur central, Thiago Mendes, accompagné par Benzia, mais finalement c'est ces deux joueurs-là qui prennent quasiment toutes les décisions, et ensuite une fois que les joueurs de côté ont le ballon, et ben on est à deux, on va faire un dédoublement, on va éliminer, on va percuter, on va centrer. Mais ces deux joueurs-là, le 6 et le 10, parce que Bielsa joue avec que deux milieux qui sont sur toute la longueur du terrain, sont capitaux. Et avec Mendes, Campos, parce que je pense que c'est lui, a vraiment trouvé le joueur idéal pour ce que veut faire Bielsa.
Ouais, moi, ce que je vais te compléter justement sur Thiago Mendes, personnellement, je pense que il a, avec ce joueur-là, Bielsa a le joueur qui lui manquait à Marseille, en fait. Puisqu'à Marseille, c'est Imbula qui tenait ce rôle. Et qui n'avait ni la finesse, ni l'activité, ni déjà le sens du jeu, tout simplement.
Quand tu vois la carrière d'Imbula depuis, tu peux féliciter Bielsa pour ce qu'il en a fait à l'époque, parce que quand même.
C'est vrai. Mais et surtout la vente qui a été faite la foulée, quoi. Mais c'est vrai que sur ce match face à Nantes, Mendes fait un match parfait. Quand on regarde la passe map, on va encore en parler de cet outil, mais quand tu vois la passe map, tu vois vraiment Thiago Mendes qui est tout seul et qui lit les deux côtés et et tout le reste de l'équipe, c'est tout passe par lui et c'est vrai qu'il fait un match assez exceptionnel. Et il y a une question qui peut déjà se poser. Alors ça va être un problème de riche si l'autre est aussi bon aussi.
Ouais.
Mais Thiago Mendes ou Thiago Maia, puisque a priori les deux sont amenés à jouer au même poste. Sauf s'il en amène un plus haut à la place de Benzia, mais ça paraît compliqué.
Bon, on en avait discuté avec l'absent du jour, Christophe Kuchli, il y aura deux dispositifs cette saison à Lille. Il y aura le 3-3-1-3 face aux équipes qui auront deux attaquants axiaux et le 4-2-3-1 face aux équipes qui n'en auront qu'un seul. Donc logiquement, je suppose que quand il y aura qu'un seul attaquant axial en face, tu auras ce double pivot Thiago Mendes-Thiago Maia. Ce qui me pousse à penser que si je suis un entraîneur adverse de Bielsa, je mettrai toujours deux attaquants axiaux.
Ouais.
Parce que déjà, Mendes, c'est chiant à gérer. Mais alors, Mendes plus Maia, t'en as un qui est droitier, un qui est gaucher. Ils peuvent t'envoyer toutes les diagonales qu'ils veulent. Et qu'après, s'il faut défendre sur des joueurs comme Arojo, comme Nicolas Pepe, qui n'a pas encore joué, mais qui va rentrer bientôt, Voilà, moi je préfère défendre sur un seul mec qui a un super jalon que sur deux mecs qui peuvent t'envoyer n'importe quel ballon sur le terrain.
Ouais, c'est sûr. Au-delà de là, parce qu'on a parlé de Junior Alonso, personnellement j'ai trouvé aussi Amadou extrêmement bon dans les duels.
Dans un autre registre.
Dans un autre registre, mais dans les, en fait, dans les 1 contre 1 que ces joueurs-là, avec Bielsa, ils en auront énormément à jouer dans la saison. Et peut-être que Junior Alonso est un petit peu plus frêle, mais c'est vrai que Amadou, il a fait un chantier derrière, je sais plus, il y a 3-4 joueurs nantais qui s'y sont frottés, à chaque fois c'était,
ouais.
Il y avait même pas de discussion possible, quoi. C'était récupération de balles et c'était propre.
Ça va être un joueur important parce que si en cours de match, les équipes adverses de Bielsa, qui affrontent Bielsa, passent de 1 à 2 ou de 2 à 1, lui, Amadou, il peut faire 6, il peut faire central, il peut passer des deux. Et je pense que c'est pour ça qu'il va commencer la plupart des matchs de Lille. Et que ça va peut-être être difficile pour un des deux Thiago et sûrement Maya parce qu'il est arrivé après et que pour l'instant, il a l'air un peu à court de forme. Son entrée là était un peu bizarre où il a raté tous ses contrôles.
C'était difficile.
Mais ça va être un joueur capital et je pense que ça va faire partie de ces joueurs à qui Bielsa va faire gagner 15-20 millions sur la sachant qu'il était déjà apprécié de clubs qui recrutent bien comme Séville il y a quelques temps.
Ouais, il a même Lille a refusé je crois des offres pour Amadou il y a
l'été dernier Lille, alors, je pense que peut-être qu'il savait qu'il arrivait ou à peu près quoi.
Ouais. Par contre, tu voulais parler peut-être du seul bémol à ton sens de ce match et c'est vrai que ça se tient c'est de Préville devant.
Ouais, alors
pas forcément pour sa perf.
Oui, c'est pas forcément un bémol contre lui, c'est plus un bémol d'inquiétude pour son avenir, parce que on avait vu ce qu'avait fait Marseille sous Bielsa, c'est une équipe avec beaucoup de centres. Alors, comme le disait Christophe, là, en effet, ils ont des ailiers qui sont tellement pour l'instant dans un projet individuel et un peu parfois peut-être dans le guidon qu'il n'y a pas forcément beaucoup de centres parce qu'ils oublient de dédoubler ou de faire de décaler leur latéral. Mais à terme, le projet Lillois, ça va être énormément de centres, mais pas forcément en l'air, hein, mais des centres de surface où il faut piquer au premier poteau, il faut passer devant l'adversaire. Et ça, c'est pas vraiment le registre de Préville qui est plutôt pour moi un second attaquant. Je sais pas si t'es d'accord, Flo, mais quand il était à Reims, c'était un joueur qui partait d'un peu plus loin. J'avais l'impression qu'il partait de 40, 30 mètres, balle au pied, ou alors avec un appel tranchant pour faire la différence. Et là, il se retrouve souvent dos au but, à disputer des duels aériens. Je suis pas sûr que ça lui colle beaucoup. Et en revanche, l'arrivée de Ezequiel Ponce, là, qui est vraiment dans ce registre-là et qui est très bon de la tête. J'ai peur qu'à terme pour Depréville, ça justifie le fait qu'il perde sa place. Et c'est pour ça que les rumeurs rennaises qui disent que Gourcuff le suit, je pense que jouer dans une attaque à deux avec une équipe qui vise le mouvement et des combinaisons, une, deux, trois touches, une, deux, trois passes pour trouver un joueur lancé, ça colle peut-être plus à son profil que le projet de Bielsa pour l'instant. Donc après, il peut très bien jouer sur une aile dans le Olosk. Hein. Mais il y a déjà du monde dans le secteur, il y a de la concurrence.
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Moi, j'ai juste envie de parler à la fin de Kouamé, que j'ai découvert sur la deuxième mi-temps, vu qu'il remplace Balotouré à la pause.
Dont on avait parlé avec Christophe, rappelle-toi, pendant la prépa. Hein.
Ouais, ben justement, tu peux en parler un petit peu. C'est vrai qu'il a été assez impressionnant, il met un caviar à El Ghazi sur le deuxième ou le troisième but, je sais plus.
Sur le troisième, je pense.
Le troisième. Ouais. Et une entrée assez exceptionnelle. En plus, Balotouré n'avait pas non plus été
non,
mauvais.
Ça, ouais.
Mais l'écart, il a été impressionnant, ouais, j'ai trouvé.
Ça tombe bien parce que c'est deux joueurs que je connais un peu, parce que j'ai vu Balotouré quand il jouait en Youth League avec le PSG. Et j'avais déjà beaucoup aimé ce qu'il faisait, Balotouré. Alors là, il était un peu plus en difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est un peu dans le même registre que Kouamé. C'est que c'est des joueurs qui ont une capacité à percuter d'ailier gauche, vraiment d'ailier gauche. Alors Kouamé, c'est un joueur qui arrive du Mali, qui arrive du même club que Yves Bissouma. Qui lui aussi est un sacré joueur de football d'ailleurs, Yves Bissouma. Je sais pas où il va jouer dans la formation de Bielsa, mais un vrai talent et une gestuelle un peu à la Pogba, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Non, mais Kouamé en prépa, il avait des. Alors moi, en prépa, je l'ai vraiment découvert en prépa avec Lille. J'ai dit Kouamé, c'est quoi, c'est un joueur du centre ou pas, j'ai regardé. Il avait fait des matchs, je crois que c'est contre Reims, où il fait que les bons choix, où il s'oriente super bien sur le contrôle, il a une qualité de centre, il a une patte gauche, il va vite, il défend pas trop mal. Vraiment, Lille a recruté. Au-delà de son recrutement sur le continent sud-américain, je pense que sur le continent africain, ils ont eu des bonnes pistes aussi. Et j'attends de voir parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait très peu d'erreurs cet été.
Mais on va voir, hein, on verra. Prochain match de Lille, c'est face à. Je vais me le mettre sous les yeux. À Strasbourg, déplacement à Strasbourg dimanche prochain.
Ouais. Bon. Une équipe qui défend pas forcément super bien, apparemment.
Non. On jettera un coup d'œil à ça. On va enchaîner avec plusieurs petits formats un peu plus rapides. Raphaël, on va démarrer par Marseille.
Oui.
Dijon 3-0. Marseille qui termine d'ailleurs cette première journée, je crois, avec le meilleur chiffre en termes d'expected goals, 2,72 expected goals pour.
Mais combien ils en concèdent aussi?
0,71.
Oh, ça va.
Ouais, ouais,
ça
c'est,
va.
C'est pas si mal. Mais malgré tout, un bémol, c'est une différence. Alors moi, personnellement, j'ai pas vu le match. Mais quand je vois l'évolution des expected goals, je vois surtout qu'à la pause, les Marseillais étaient derrière Dijon et que la première mi-temps était assez indigente. Et ensuite, bon, ça a déroulé. Le fait de marquer, le premier but, évidemment, a débloqué la situation en leur faveur.
En plus, il marque un peu par bonheur, hein, parce qu'il marque pas au bout d'un temps fort, ou il marque pas alors qu'il y a eu un changement qui fait que l'OM domine. Il marque parce que NG arrive. Et... Alors, à la limite, la vraie différence, Payet sort à la mi-temps. Et l'entrée de NG, ça fait que, par rapport au déplacement de Germain dont tu parlais tout à l'heure quand on évoquait Monaco, t'as ce joueur-là qui va prendre l'espace axial quand Germain le quitte. Et moi, c'est la question que j'ai sur ça. Une des questions, parce que j'en ai beaucoup sur cet OM-là, c'est, vu la façon de jouer de Germain, est-ce que Thauvin et Payet, c'est vraiment pertinent de les mettre les deux avec Germain? Il faut quelqu'un qui remplace Germain quand il va dézoner, quand il va bouger, quand il va aller sur un côté pour libérer un espace, quand il va aller sur un côté pour toucher le ballon, parce que c'est pas forcément un joueur qui va être bon dans un duel vraiment avec deux centraux. Donc ça, c'est la question. Et étant donné que Sanson peut occuper ce rôle, mais qu'il est obligé de redescendre parce que Marseille a du mal à relancer, il y a un espace. Je pense pas que ce soit Lopez qui puisse remplir cet espace axial. Est-ce que ce serait pas plus logique de faire reculer Lopez avec Gustavo et de laisser Sanson dans ce rôle de 8-10 parce que lui aime se projeter? Moi, c'est une question que j'ai. Après, ce qui est important, ce qui est bien, c'est que Marseille a beaucoup de qualité pour trouver une solution. Ils ont beaucoup de joueurs, ils ont NG qui peut occuper un poste comme ça sur le côté pour revenir dans l'axe. Et c'est un peu comme ça que la différence a été faite en deuxième mi-temps. Alors après, j'ai un petit problème, c'est qu'il y a les Marseillais qui sont passés très vite de l'analyse de la performance à l'analyse du score, de 0-0 à 2-0 en gros, alors que c'est pas forcément des séquences qui sont ultra maîtrisées par l'OM. Mais il y a encore beaucoup de questions. Je suis pas fan de la circulation de balles marseillaises. Je trouve que les latéraux sont toujours trouvés dans des positions compliquées. Quand Sakai et Evra reçoivent le ballon, ils sont toujours pressés et ils sont obligés de revenir vers l'arrière. Rami et Rolando ne font toujours pas avancer le jeu. Luis Gustavo, bon, il joue à un rythme de sénateur, mais il a toujours autant de qualité technique, donc à voir ce que ça va donner avec un peu plus de compétition dans les pattes. Mais il y a encore, je trouve que pour une équipe qui, ça fait combien de temps que Rudy Garcia est là? Un an?
Un peu moins.
Il est arrivé en cours de saison, arrive en cours de saison? Ouais.
Bah, ça écoute, va faire un an à l'automne, je crois.
Il y a encore beaucoup de choses à travailler, quoi. Le bloc est hyper distendu, il n'y a pas trop de pressing à la perte. La couverture de l'axe, quand en possession du ballon, je trouve que Marseille est mal positionné pour défendre parce que Lopez va tellement sur le côté qu'ensuite, bah, ta défense de l'axe, vu que tes latéraux avancent beaucoup aussi, t'es en difficulté assez rapidement sur les longs ballons et sur les contre-attaques de Dijon, qui d'ailleurs a très bien joué au foot encore une fois et arrive à très bien contre-attaquer. Donc le 3-0 ne me réjouit pas autant qu'il pourrait réjouir un supporter marseillais finalement.
Ouais, bah personnellement, j'ai pas vu le match, mais j'avais vu un bout de match face à Ostende, notamment la deuxième mi-temps. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que sur la deuxième mi-temps, donc Marseille avait 2 buts d'avance après avoir gagné 4 buts à 2 au match aller. Ouais. Et sur la deuxième mi-temps, il y a Mandanda qui fait un exploit et qui évite le 1-0. Et après, à 1-0 en milieu de mi-temps, tu sais pas trop comment ça peut tourner, quoi, dans une situation comme ça. Je suis assez bien placé pour le savoir en tant que supporter bordelais. J'étais surpris d'entendre à la fin Dimitri Payet et Rudy Garcia, je crois, dire « Oh, ben ça va, on n'a pas été mis en danger, on est passé tranquillement, etc. »
Alors que pendant 45 minutes, chaque contre de Dijon arrivait dans les 30 derniers mètres adverses. Quoi, donc,
voilà. Là, je te parlais d'Ostende, hein, mais bon,
oui, c'est oui, non, mais, répété face à Dijon. Bah, du coup, tu vois, ouais, c'est...
Ouais. Non, mais après, moi, dans la manière dont est construite l'équipe, je trouve qu'il y a encore énormément de manques pour une équipe qui veut viser le podium, on va dire, cette année, je pense. Derrière Rami Rolando, je comprends pas pourquoi l'avoir fait.
Bah, c'est qu'il fait partie de ces nombreux joueurs de l'OM, et ça va être un jugement physique, mais qui vont pas vite du tout, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs dans cet OM là qui manquent de dynamisme. Payet, c'est pareil, il a l'air complètement cuit en termes de côté athlétique. Luis Gustavo, c'est pareil, défensivement, quand il faut défendre en reculant vers son propre but, c'est très compliqué. Rolando Rami, c'est pareil. Evra, ça va moins vite qu'avant. Il y a beaucoup de joueurs qui traînent une petite charrette derrière eux. Alors, si tu joues sur attaque placée tout le temps, ça ira, mais quand il va falloir défendre des contres, là, ça a été le cas, ils ont été en grande difficulté.
Après, ils ont un début de saison, on va dire, pas non plus très... Enfin, si, fin août, ils ont 3 matchs, là, en fait. Ils vont enchaîner, ils vont à Nantes la semaine prochaine. Puis ça va recevoir Angers, qu'il va falloir manœuvrer hein, encore cette saison. Je pourrais en parler un peu. Et après, fin août, ils vont à Monaco pour leur premier gros test. Mais c'est vrai que moi, personnellement, par rapport aux ambitions de l'équipe, je suis pas encore convaincu. Et notamment les... Enfin, je trouve que derrière, ça manque tout simplement de qualité, au-delà des charrettes. J'ai du mal à concevoir que tu puisses faire une saison avec Evra latéral gauche. Titulaire. Alors a priori, il serait très très chaud sur Amavi là. Et ouais, déjà, ouais. Ça changerait quand même pas mal de choses dans la lecture.
À voir dans quel état arrive Amavi aussi.
Oui, il y a toujours cet inconnu là. Oui, sachant qu'il a raté une visite médicale. Sinon, il signe à Séville, non? Un truc comme ça pendant l'été.
Ouais,
donc il y a cette incertitude là, et il y a aussi moi le deuxième central à côté de Rami. Déjà que je suis pas convaincu par Rami. Rolando, je suis pas non plus un grand fan, même si l'an dernier il avait fait le boulot malgré tout. J'ai trouvé.
Vu que l'OM cherchait un relanceur, le profil du petit Camara là, qui a joué un peu 6 pendant la prépa et qui a une bonne patte droite, si je me trompe pas, mais il me semble que quand j'ai vu les résumés c'était pied droit. Je suis pressé de voir ce que ça va donner parce que c'est très frêle physiquement, mais par contre lui court. Et il relance. Donc, c'est deux choses que l'OM n'a pas en défense.
Et il a une carte à jouer. L'an dernier, Maxime Lopez avait un petit peu éclos comme ça. Ça sera peut-être son tour cette année. Parce que c'est vrai qu'après, sur le marché, maintenant que Mamana, qui aurait été un bon candidat pour ce poste-là à l'OM, est parti au Zénith, c'est vrai que sur le marché, il n'y a plus grand-chose. Quoi,
alors, tu prends Juan Foyce.
Ouais, c'est vrai, l'Argentin que...
Bah, il hésite à venir à Paris par rapport à son temps de jeu. Donc à l'OM, je pense qu'il est directement troisième, voire deuxième. Hein.
C'est vrai. Bah écoute, on va suivre ça de près, les prochains matchs de l'OM, voir si ça évolue dans le bon sens.
Ouais, en tout cas, juste sur Dijon, parce qu'on parle des équipes, des grosses équipes depuis tout à l'heure, Dijon a fait un recrutement ultra intéressant, je trouve. Naïm Sliti, super joueur, et il a déjà montré de belles choses. Wesley Saïd, pareil. En contre-attaque, ça va être pas mal. Benjamin Janot, joueur intelligent. Romain Amalfitano, alors il me semble qu'il était déjà au club,
ouais,
mais j'ai vraiment bien aimé sa performance. Oui. Alors ce qui est triste, c'est ce qui est arrivé à Wesley Lotoa pour son premier match avec Dijon, là où il se fait fracture du péroné.
Ouais.
Et je conseille à personne d'aller voir les images d'ailleurs, mais il y a franchement un recrutement qui a été plutôt bien du côté de Dijon, et un jeu en une touche de balle, deux touches de balle sur les contre-attaques qui est très intéressant, qui peut en penser un peu au Lorient de Gourcuff il y a quelques saisons.
T'oublies Cédric Yamberé dans les recrues d'ailleurs.
Oui, mais c'était pas forcément la plus. Je savais que ça te plairait pas si je le disais. Donc.
On enchaîne après ce Marseille et Dijon. Toi, tu voulais parler du Stade Rennais que tu as vu face à Troyes.
Bah, parce que je pense que tout le monde a envie de voir le Stade Rennais cette saison, ce qui est une phrase qui on la dit pas toutes les années, mais il y a eu un tel recrutement et surtout l'arrivée de Ismaïl Assar. Qu'aujourd'hui on se dit est-ce que Rennes c'est pas forcément une équipe ça peut jouer top 6. Donc j'ai regardé un peu le match contre 3, d'ailleurs 3 m'a surpris parce que ça joue toujours pas mal, mais j'ai été surpris parce que toi Ismaïl Assar c'est ton petit poulain, donc forcément tu le défendras corps et âme, mais j'ai été surpris de voir que c'est beaucoup plus qu'un dribbleur, tu vois. J'avais cette image à Metz d'un joueur qui était surtout dans la percussion dans le 1 contre 1, et là alors en plus
il était coté aussi.
Ouais, en plus là il joue en pointe avec Gourcuff, mais c'est un super passeur et il comprend hyper bien le jeu. J'étais très surpris de. Moi, je pensais que c'était un.
Avec qui on
peut. Un Maxwell. Non, pas un Maxwell. Je me cornais, c'est méchant, mais un. Tu vois, un Dembélé début de carrière.
Ouais.
Et il est déjà plutôt intelligent pour un joueur de son âge. Donc, je suis curieux de voir ça. Moubélé, j'ai bien aimé aussi. J'avais déjà bien aimé sur les derniers matchs de prépa. Je sais plus quand j'avais joué Moubélé. Mais j'avais bien aimé ce qu'il faisait. Alors, Benjamin André est toujours aussi bon au corps du jeu. Il y a le gelon de Bourigeaud qui est arrivé. Et qui peut apporter des choses. Sur le côté individuel, il y a beaucoup de talent. Après, collectivement, je trouve que le 4-4-2 de Rennes, il est encore ultra plat, tu sais.
Ouais.
Et c'est ce que disent pas mal de coachs, c'est quand un 4-4-2 est plat, quand t'arrives pas à déformer un peu ta structure pour que ce soit, pour qu'il y ait des hauteurs différentes pour chaque joueur, bah, tu as une circulation qui est hyper horizontale, hyper latérale, et t'as du mal, finalement, à avancer. Et surtout, tu facilites le pressing adverse, parce que des passes latérales qui s'enchaînent, ça permet au bloc adverse de remonter.
Mmh.
Et donc là, c'est la question que j'ai pour l'instant sur Rennes, c'est est-ce qu'ils vont arriver à, peut-être à pousser leurs latéraux un peu plus vers l'avant, à faire en sorte que les joueurs dans les joueurs qui jouent un peu sur les côtés, genre Unou ou que ce soit je sais pas qui jouera après sur les côtés, peut-être que quand Gourcuff jouera 10, il pourra décrocher, mais que ce soit un peu plus imprévisible. Pour l'instant, c'est hyper géométrique, mais c'est trop géométrique en phase offensive, tu vois.
Ouais.
Défensivement, c'est hyper fort géométriquement parce que c'est Gourcuff et son 4-4-2 est toujours bien structuré. Offensivement, je trouve que c'est limite trop structuré.
On est ouais, c'est exactement c'est la consigne sur Football Manager, le 4-4-2 très rigide, tu sais.
C'est ça, ouais.
Avec en comparaison de l'AS Monaco par exemple qui était sur fluide ou très fluide.
Ouais, c'est ça, il y a plus forcément de système quoi. T'as des joueurs qui occupent des zones différentes et là je trouve que Rennes est encore trop et puis il y a un souci aussi, c'est je trouve qu'ils ont du mal à gérer un peu la profondeur. Alors ils jouent tout le temps le hors-jeu parce que c'est Gourcuff, donc c'est Saki, et donc pour réduire l'espace, lui joue le hors-jeu, il va pas jouer la couverture comme le fait Bielsa. Mais comme il n'y a pas toujours de pression sur le porteur, parfois ils prennent des longs ballons dans le dos et ils sont un peu mal placés.
Après, ça aussi, ça vient, cette limite, cette rigidité du 4-4-2 vient aussi des profils. Quand tu mets Moubele à droite ou Mawasa à gauche, c'est des joueurs qui vont rester
évidemment,
souvent rester dans le couloir.
Mais en l'occurrence, tu vois, c'est pour ça que j'attends de voir comment va rentrer Johan Gourcuff dans cette équipe. Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe? Parce que si lui décroche un peu sur un côté, tu peux dire à ton joueur à Mawasa d'aller sur le côté. Ou si Gourcuff vient un peu chercher le ballon sur le côté, tu peux dire à Moubele de revenir vers l'axe. Tu peux dire à Sarr de partir sur un côté un moment. Il faut que ça devienne imprévisible à Rennes. Mais il y a beaucoup de qualité, c'est ça qui est inspirant. Et puis surtout, ils ont réussi à garder Niagnon.
Ouais.
Ce qui est super parce que dans le jeu aérien, lui, c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire.
Ok, on verra Rennes. Leur prochain match, c'est vendredi face à l'Olympique Lyonnais. J'ai en profité, ouais, un petit choc.
Une belle transition, mais c'est pas mal comme match.
Exactement. Et donc Rennes-Lyon, ça sera stade de la Route de l'Orient. Lyon qui est le premier leader de la saison avec sa victoire 4-0 face à Strasbourg à domicile. Mais c'est vrai que personnellement, j'étais pas devant le match, ou en tout cas pas de manière attentive. J'avais le match dans un coin. Et un match débloqué par les attaquants, parce que quand on regarde, on va vous ressortir les expected goals du match, parce que c'est assez parlant. Lyon donc s'impose 4-0, mais Lyon termine au niveau des expected goals à 1,47. Bon, par contre, la presta défensive est plutôt bonne, puisqu'ils terminent ils ont maintenu Strasbourg à 0,32, donc il n'y a pas vraiment de danger pour leur défense. Mais voilà, Lyon à 1,47, et surtout Lyon qui marque surtout sur des occasions, enfin qui va au talent quoi. Le talent de Mariano pour débloquer la situation, ensuite le 2-0, je crois que c'est le penalty de Fekir. Et en fait, ce qui est très parlant, c'est que ce chiffre de 1,47 que je vous ai donné, ce sont les occasions de Lyon, mais en prenant en compte le penalty qui apporte 0,70 ou 0,80 je crois en expected goals.
Ouais.
Et quand vous enlevez ce penalty, c'est-à-dire uniquement dans le jeu, Lyon est à 0,71 à la fin du match, et ça c'est quand même très faible, surtout face à un tel adversaire. Alors voilà, c'est un petit peu un résumé du projet qui était annoncé quasiment cet été, c'est-à-dire d'une équipe plus solide derrière, deux lignes de 4-2-3-1, 4-4-2 peut-être un peu plus bas. Mais ensuite, on se reposera énormément sur les individualités devant et la capacité de Mariano, de Fekir, de Traoré à faire des différences, à marquer dans des positions compliquées.
T'as quatre joueurs qui tirent beaucoup, en fait.
Voilà.
Alors, tu remplaces la précision de la casette par du volume. C'est pas forcément un mauvais choix, hein. Ça peut marcher, mais en général, c'est vrai que c'est très aléatoire, quoi. C'est beaucoup plus variant que la casette en un contre un face au gardien.
C'est aléatoire, et puis... je pense que face à des équipes comme du niveau de Strasbourg ou de la deuxième partie de tableau, ça pourra leur suffire. Et encore, faudrait pas non plus en sous-estimer certaines. Tu parlais de Dijon tout à l'heure, par exemple. Mais c'est sûr que quand il va falloir affronter les autres grosses équipes du championnat, c'est pour ça que Rennes, ça va être un premier test pour eux au final, la semaine prochaine. Mais là, Lyon, ils ont un début de saison pas très facile, puisqu'ils vont à Rennes, puis ensuite ça va recevoir Bordeaux, qui avait gagné à la même époque à Lyon en début de saison. Après, ils vont aller à Nantes. Et ensuite, la cinquième journée, le 9 septembre. Ça se calme un peu, ça reçoit Guingamp.
Guingamp, ils ont de la qualité aussi.
Et ensuite, sixième journée, ça va à Paris. Donc c'est
ouais,
vrai que...
c'est clair que tu peux...
Le début de saison, voilà... Premier match parfait pour rentrer dans la saison et se mettre en confiance. Mais c'est vrai que là, les prochains matchs vont peut-être permettre d'y voir un peu plus clair sur le projet de l'OL et sa capacité et les ambitions qu'il peut avoir cette saison, quoi.
Après, ce qui est les points positifs, c'est évidemment la performance de Mariano, qui te montre qu'il a une vraie qualité de frappe, et c'était ce qu'on nous avait un peu annoncé. Que Traoré, en effet, dans le 1 contre 1, ça va être un sacré truc à gérer. Et puis surtout que Fekir continue à retrouver encore un peu plus de vivacité à chaque match. Je trouve que là, c'est par exemple le but qui marque, là, pas son penalty, mais quand il déclenche très vite sa frappe, là, c'est le Fekir dont on était un peu tombé amoureux, quoi. Et c'est cool de le revoir avec. Alors ça va pas forcément être le cas dans la vitesse de course et dans la conduite de balle, mais au moins pour déclencher une frappe, vu qu'il va souvent se retrouver en position de le faire, s'il arrive à le faire très rapidement, c'est une super nouvelle pour l'OL.
Voilà, donc on va les suivre dès vendredi prochain sur la pelouse du Stade Rennais. Et du coup j'en parlais un petit peu, j'ai donné quelques mots sur Bordeaux qui a été scandaleux jeudi.
Un beau début de saison. Hein.
Très frustrant. En même temps, t'es sur une équipe qui, c'est Grosvenac l'avait dit, qui avait peut-être pas raté un seul match en 2017. Alors certes, ils en avaient perdu contre Nice, contre Paris, contre Monaco, mais ils n'étaient jamais totalement passés à côté. Et en fait, le seul match où ils passent totalement à côté, c'est le match où il fallait pas passer à côté. Donc c'est vrai que c'est très ennuyeux. Ils ont été catastrophiques à Vidéotone. Alors c'est pas le nom de la ville, mais je vais pas la donner, sinon je pense que je vais avoir une crampe. Mais non, un match catastrophique, mais un match personnellement, ce que je retiens, c'est que c'est le seul match. Bon, ils ont pas joué beaucoup de matchs dans la pré-saison. Il y en a eu trois. Enfin, dans la saison, il y en a eu trois. Mais un match sans Lucas Lerauer au milieu. Alors il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds depuis la Belgique. Il jouait à Zulte Waregem. Alors c'est pas un milieu, alors c'est pas Jean Seri quoi, c'est pas un milieu qui va porter la balle, mais c'est l'opposé total, mais c'est l'opposé très bon, c'est-à-dire que c'est un milieu qui balle au pied va jamais faire de merveille, même s'il est capable de faire des passes intéressantes et de casser des lignes. Il avait notamment donné un super ballon je crois à Camano lors du match aller contre Vidéotone. Mais en termes de volume, en termes de course, de mouvement, jeu aérien, impact dans les duels, etc., etc. Vraiment, il a beaucoup de choses. Et tu vois, c'est un milieu un petit peu pour une équipe je compare ça à une équipe de Conte, c'est-à-dire que Conte, quand il n'avait pas de milieu technique, notamment l'Italie par exemple, les milieux apportés par leur course, et notamment ils ouvraient des lignes de passe pour les défenseurs pour atteindre directement les attaquants. Là, ce que fait Lerauer, ce qu'il avait fait au match aller contre Vidéotone, c'est qu'il avait ouvert beaucoup d'espace à Malcolm sur le côté droit. Et Malcolm, en une mi-temps, avait créé, je crois, 7 ou 8 situations très dangereuses dans la surface de Vidéotone. Et je pense que le fait qu'il ait pas joué le match retour a pesé dans les deux parties du terrain. Mais c'est vrai que c'est un travail de l'ombre qui est difficile à voir. Hein. Il suffit de voir les supporters girondins sur Twitter taper une petite occurrence girondin ou Lerauer sur Twitter, et vous vous rendrez compte que beaucoup, voire la majorité, regrettent que ce joueur-là, grand et peut-être un petit peu lent, ou qui a l'air un petit peu pâteau, ait pris la place de Valentin Vada. Alors quand on regarde concrètement sur le terrain ce qui est fait, on est sur un joueur beaucoup plus performant, on est sur un joueur qui est déjà international, et qui, à mon sens, va former une paire avec Sankaré qui risque de rendre Bordeaux difficile à effacer en fait au milieu. C'est-à-dire Bordeaux a peut-être un petit peu même sans doute affaibli sa défense en termes de présence dans les duels, d'impact physique, etc. Mais avec l'objectif d'ajouter une certaine capacité technique, pour ceux qui ont vu Palois contre Lille, ils comprendront. mais voilà, t'affaiblis peut-être ta ligne derrière sur le plan purement physique, etc. Où tu te retrouves avec une charnière, ça sera sans doute tout l'allant Jovanovic à terme. Jovanovic qui est très bon d'ailleurs, à la relance. Et ensuite, par contre, un milieu de terrain qui va être très difficile à franchir, avec Sankaré, Lerauer en 8, et le Brésilien là qui doit arriver, qui s'appelle Otavio, qui est arrivé à Bordeaux cet après-midi.
Mais qu'est-ce que ça fait de prendre un but de Baptiste Guillaume, sinon, à la 88e minute?
C'est ennuyeux.
Comment a joué Angers? Parce qu'Angers, on les aime bien en général. C'est quand même une équipe qui est très cohérente dans sa manière de construire son effectif et ensuite de l'utiliser. Donc, est-ce que c'est un match qui t'a autant frustré que Vidéotone ou...
La deuxième, c'est-à-dire que Bordeaux rate deux balles de 3-1. Et c'est là que ils restent sous la menace. Et puis à la fin, bon, ils prennent ce but où ça fait, enfin, c'est un contre, je crois. Et il y a des joueurs qui sont en retard, etc. Mais au final, ça reste frustrant de par le scénario de la rencontre. Mais tu me dis avant le match qu'après avoir perdu comme
vidéo,
fait un match horrible et être rentré, c'est d'ailleurs c'est ce que Gourvennec a dit en conférence de presse, être rentré de Vidéotone à 4h du matin, avoir 48 heures pour récupérer, essayer de se remettre de cette élimination qui vont se traîner quand même comme un boulet toute la saison. Réussir, tu me dis au départ, ben, vous allez prendre un point à Angers et faire un match pas si dégueu que ça. Vu le contexte, je me dis, bon, c'est pas si mal. Alors là, c'est vrai que le fait...
Non, c'est le fait de le prendre à 2 minutes de la fin.
Exactement.
T'emmerdes.
Exactement, c'est ça qui déclenche tout le reste.
Ça répète un peu le truc de Vidéoton, c'est que tu gagnes 2-1 et puis tu prends un but à la fin qui te...
Ouais, c'est vrai en plus.
Mais tu vois, tu sépares le match en deux entre le 1 à la 87 et le 88 à la 93.
C'est vrai. Après l'équipe à Bordeaux a aussi un problème de précision dans la finition. Alors ça, c'est ça qui peut être intéressant à suivre avec eux sur la fin du mercato, parce qu'au-delà de l'arrivée d'Otavio, alors Bordeaux serait aussi sur un ailier, Jonathan Cafu, qui avait mis la misère au PSG d'ailleurs, à Marquinhos l'année dernière lors de PSG Ludogorets.
Parce qu'il y a 20 000 Cafu dans le football maintenant. Donc,
Ouais, mais là c'est Jonathan le mec donc, qui joue en Bulgarie. Et ensuite, bah, y a toujours cette histoire autour de Diego Rolan, qui au final est malgré tout le meilleur finisseur des Girondins, et je pense qu'il a manqué sur les deux matchs. Alors Gourvennec décide à partir du moment où le joueur... pense plus à partir qu'à sa saison dans son club, il décide de l'écarter. C'est un choix, mais c'est vrai que c'est un choix qui pèse, parce que Vidéoton au match aller, le 2-1 est très gentil parce que Bordeaux a, alors on va dire, deux ou trois autres occasions franches pour plier ça à l'aller. Au match retour à 0-0, tout en étant absolument dégueulasse, Bordeaux aurait pu ouvrir le score justement par la board qui décide de faire une remise de la tête à 2 mètres du but au lieu de la mettre dedans. Et ensuite, voilà, les balles de 3-1 manquées face à Angers. Il y a Camano qui en manque une et je ne sais plus qui a l'autre. Mais voilà, il y avait
non, mais largement c'est triste parce que c'est triste parce qu'en deuxième partie de saison 2016-2017, Bordeaux faisait partie des équipes très sympas à avoir joué. Donc commencer ainsi, tu vois, tu te dis, ah bah, on a aimé Bordeaux 2017, de janvier à mai. On est pressé de les voir en août 2017 et puis tu commences à les voir et ils font deux résultats, un qui est vraiment catastrophique pour le foot français et pour le club, et l'autre qui est très frustrant par rapport au scénario. Donc c'est en plus d'un mercato qui, alors tu t'es content parce que t'as ton milieu qui a du volume, ça c'est bien, mais le reste du mercato, il y a Sabali qui est arrivé, c'était une bonne chose, tu vois, mais je pense qu'il manque un truc devant, et vraiment une arrivée qui fait que tu passes de on peut faire sixième à putain, si ça se passe bien, peut-être qu'on fait quatre, tu vois.
Mais la difficulté, c'est ça, c'est que à l'heure actuelle, il y a le 6 donc qui arrive, Otavio, un Brésilien, chanta Marcelo un peu, il a un air de Marcelo. Déjà, c'est rigolo, moi j'aime bien. Mais donc lui va arriver au milieu et a priori les autres pistes, ça cherchera encore un latéral gauche. Il y a un ailier qui doit arriver pour apporter de la concurrence parce que tu peux pas faire toute la saison avec autant avec Malcolm en titulaire, oui, mais avec Camano en titulaire, il faut de la concurrence, un joueur qui puisse le pousser, et voilà. Donc c'est pour ça qu'un ailier doit arriver, et puis il faut remplacer Ounas et Menez qui sont partis. Il y a l'arrivée espérée encore d'un latéral gauche, ça reste, j'ai l'impression que c'est la dernière des priorités. Et ensuite, ce que je te disais tout à l'heure, donc en fonction du départ ou non de Rolan, l'arrivée d'un avant-centre, a priori ça c'est prévu. Mais bon, voilà, faut aussi qu'il parte. Et pour l'instant, il est pas parti. Là, il est à Biarritz.
Il a l'air bien, Biarritz, avec sa copine, voilà. Et tout. C'est une vie sympa. Hein.
Ça se passe bien pour lui. Ouais. Ça se passe bien. bon, on va pas parler de Bordeaux. Bordeaux qui va enchaîner avec un match à domicile contre Metz, qui va à Lyon et qui ensuite a un nouveau match à domicile face à Troyes. Donc, ils auront peut-être l'occasion de se faire pardonner devant leur public, en tout cas. Voilà, vu les adversaires qui sont quand même à leur porte malgré tout. Et on va finir sur Nice, en élargissant un petit peu parce qu'on les a pas vus face à Saint-Etienne, mais moi j'avais suivi de près face à l'Ajax, et leur recrutement tout simplement, Snyder qui vient d'arriver, Saint-Maximin qui est en train d'arriver a priori.
Ils sont sur apparemment aussi le Patrick Roberts de City, qui avait été prêté au Celtic la saison passée, qui est un jeune talent britannique et qui avait fait une bonne saison en Écosse. Mais c'est un attaquant, lui, un attaquant ou second attaquant. Donc, je pense que ce sera plutôt pour un poste. Après, Favre change un peu les postes des mecs parfois. Donc peut-être que ce sera derrière Ballot quand Snyder sera pas là, ou sur un côté, ou à la place de Ballot, à voir.
pour remplacer.
Sachant qu'il y a aussi Pléa qui a fait un bon match contre l'Ajax.
Un très bon match, ouais. Non, mais tout simplement sur Nice, moi j'étais un peu en fait entre les deux matchs face à l'Ajax. Je me posais pas mal de questions, et alors toujours cette question autour de série.
Oui, ça c'est la vraie question du mercato.
Voilà, ça va décider de pas mal de choses. Même si c'est vrai que sur le banc, à l'heure actuelle, enfin, il y a Cosiello qui aujourd'hui est dans l'équipe, mais t'as Cyprien qui attend, ouais. Et puis il y a
après
jeunes...
Cyprien qui attend, mais qui doit être en retour de blessure là, je pense, parce qu'il s'était fait quand même un. Ouais. C'était quoi, il fait que c'était fait croisé, tibia péroné, hein. Ou c'était
croisé,
ligament croisé, crois, ouais, ligament croisé. Ouais. Ouais. Oui, qui lui avait en effet. C'est... Alors, on a presque oublié qu'en début de saison dernière, quand Nice fait un super début de saison, Cyprien est le meilleur joueur de son équipe la saison dernière. Enfin, devant Seri à l'époque. Alors qu'après Seri a pris le rôle de patron. Et c'est vrai que son retour est à suivre. Mais il y a cette question autour de Seri, parce que j'ai l'impression que, je pense que le match contre Nice contre Saint-Té où Seri n'était pas là l'a montré encore. Comme on avait dit de Lemar, c'est un joueur irremplaçable. Et il sait faire tellement de choses dans tellement de registres. Toi qui es un grand défenseur de Seri au PSG à la place de Verratti, on en a souvent parlé ensemble en privé. Mais par exemple, ce qu'il fait contre l'Ajax quand il percute, il casse une ligne, il fait la passe talonnade à Vincent Marcel. C'est un truc, enfin, il n'y a pas un mec sur le marché que tu vas avoir à Nice d'ici le 31 août.
Oui, c'est sûr.
En tout cas, à ce poste-là, Sneijder peut le remplacer en termes de créativité. Mais c'est un fact. Pour l'instant, on est dans l'inconnu, alors que Seri, tu sais ce que t'as avec toi.
Ouais, et Seri, ouais, le Barça serait quand même très très chaud, a priori.
Sachant qu'il a déclaré à de multiples reprises que c'était son rêve de gosse d'aller au Barça, donc. Ça me paraît compliqué de dire non à un mec comme ça qui a rendu tellement de services et qui est venu à Nice quand Nice n'était, tu vois, je sais pas.
Puis maintenant ils ont un peu de sous et ils savent comment ça marche les clauses libératoires, puisque a priori il en aurait une non pas dans son contrat mais voilà une clause tacite vu qu'en France elles sont interdites à la base. Donc ouais, voilà, on va suivre. Mais c'est vrai que Nice, en fait, j'étais un peu perplexe. Je me demandais avant de les voir face à l'Ajax. Est-ce qu'ils ont pas trop perdu, parce qu'il y a Ricardo Pereira qui est reparti. Là, entre temps, ils ont vendu Dalbert à
ça va être très dur aussi à remplacer, hein.
Sur les côtés, ouais. Même si Arnaud Souquet fait deux très très bons matchs
face à l'Ajax. Côté gauche, ça va être. Ça, voilà. S'ils prennent Amavi, parce qu'ils sont aussi sur Amavi.
Ils seraient aussi sur Amavi, ouais. Et bon, j'imagine qu'ils ont d'autres pistes derrière et que ce poste de latéral gauche, ils vont vouloir recruter, parce que c'est vrai que Malangsar, c'était au final, face à l'Ajax au match retour, bon, il a beaucoup souffert face à Kluivert.
Oui.
En même temps, je pense que.
Je pense que ce soir-là, contre les 45 premières minutes de Kluivert, je pense que tu peux n'importe qui, c'est très très difficile. Il fait une première période hallucinante.
C'était très difficile. Par contre, je l'avais trouvé intéressant, moi, dans l'utilisation du ballon. Il a jamais paniqué. Très souvent, des latéraux comme ça, quand ça se retrouve sous pression, ça va balancer. Mmh. Et puis non, il faisait toujours un petit crochet intérieur, il trouvait des solutions dans l'axe. Après,
en termes d'appui et de vivacité, de capacité à se retourner rapidement face à des ailiers, il va être en grande difficulté à ce poste-là.
Ouais, c'est sûr. Mais voilà, en attendant, c'est vrai que c'est un match très intéressant. Et d'ailleurs, on a une question pour le suivant. En Ligue des Champions, une question de je ne sais pas qui, mais je m'excuse par avance, c'est cette personne-là qui nous demande que pensez-vous de l'affrontement Favre-Sarri, puisque ce sera
il se reconnaîtra
la prochaine Naples-Nice. Et ben, je me dis que ça peut déjà être un des matchs de l'année pour démarrer la saison.
En fait, sur le court terme, c'est bien parce qu'on va avoir deux matchs géniaux. Sur 6 mois, j'aurais préféré voir les deux en Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, là, tu vas avoir un super match parce que personne ne va vouloir balancer. Il va y avoir énormément de. Pour relancer, c'est quasiment les mêmes idées.
Oui.
C'est beaucoup de jeux en une touche de balle. Tu joues face à toi, tu donnes à un partenaire qui est face au jeu, qui va pouvoir trouver derrière toi et un joueur plus avancé. Donc ça relance de la même façon. Par contre, savoir qu'une de ces deux équipes ne sera pas en Ligue des Champions, ça me désole parce que quand tu vois celles qui seront. C'est là que tu te dis qu'il devait y avoir un critère, pas esthétique, mais un critère de est-ce que c'est sympa de les voir jouer ? Oui, non. Et s'il y a trop de noms de la part des gens, on dit bon bah vous aurez un tour plus difficile. Tu vois, je sais pas. Parfois t'as envie de dire non parce que quand t'as regardé du foot pendant, je sais pas, ça fait combien d'années maintenant qu'on regarde du foot sérieusement. Je sais pas, ça fait longtemps. Il y a un moment où tu vois des matchs, tu sais après 10 minutes que ça sert à rien de regarder le match, tu vois.
Mm-mm.
Et avec Nice et Naples, tu pourrais n'importe quel match, ça sert à quelque chose de regarder. T'apprends toujours des trucs. Tu vois des trucs intéressants. C'est dommage de. On va se régaler sur deux matchs. Par contre, je suis très pressé de voir comment ça va se passer. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de. d'extrême dans leur manière de relancer que les deux équipes peuvent se foutre dans la merde toutes seules s'il y en a une des deux qui presse particulièrement bien ce jour-là. Et mais alors Naples est évidemment favori, mais je suis très curieux de voir comment Favre va défendre face à cette équipe.
Ouais, à mon sens, c'est très ouvert. Ouais.
C'est comme s'il défendait face à lui-même, donc c'est tu vois.
Ouais, il y a ça, et d'ailleurs, on a pas mal parlé quand même après le match de la presta offensive de Nice face à l'Ajax. Mais c'est vrai que moi, défensivement aussi, ils m'ont impressionné. Alors, je crois qu'en termes d'expected goals, ils en prennent pas mal, mais c'est ça aussi avec Favre, c'est que moi j'ai souvenir d'une action en deuxième mi-temps où Ziyech est en très bonne position. Il est au point de pénalty, il veut mettre une reprise, sauf qu'il a Denis Soit devant lui. Et donc, en termes d'expected goals, ça apporte beaucoup à l'Ajax, mais quand tu vois l'action, c'est pas une occasion franche pour toi parce qu'il y a du monde entre le mec et le but, entre le tireur et la ligne de but. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'il déjoue toujours ce modèle. C'est un des rares entraîneurs qui, sur plusieurs saisons, le fait. Donc, voilà. Mais sur le match contre l'Ajax, j'avais trouvé la presta défensive de Nice, et notamment dans les 20 premières minutes, même les 25 premières minutes en fait, parce que au final l'Ajax égalise sur sa première occasion, et je crois même que c'est son premier tir du match. Le but de Van de Beek, qui a d'ailleurs était très bon aussi sur la double confrontation. Mais défensivement, je les avais trouvés hyper forts, dans le sens où ils avaient su limiter l'influence de Schöne au milieu, par rapport au match aller où on l'avait un peu plus vu. Ils avaient vraiment verrouillé et bloqué l'Ajax sur un demi-terrain, ou avec ensuite beaucoup de densité autour du porteur pour notamment bloquer les ailiers et essayer de limiter leur impact. Alors bon, évidemment Kluivert a fait son show, mais c'était plus sur des transitions et des attaques rapides que sur du jeu placé, des ballons remontés depuis la défense. Et voilà, ils avaient vraiment bloqué l'Ajax sur un demi-terrain, alors que d'habitude, voilà, le jeu de l'Ajax, c'est on fixe d'un côté, on va chercher, on a une transversale avec Ziyech, avec Davidson, Sanchez ou De Ligt qui balance de l'autre côté. Là, je crois que sur la première mi-temps, je me demande s'il y a un changement de jeu. Et c'est vrai que Nice avait vraiment su verrouiller et battre l'Ajax sur ses points forts, empêcher l'Ajax de développer ses points forts. Et bon, le but arrive un peu contre le cours du jeu, le but de l'Ajax. Mais en plus, Nice aurait pu plier le match, mais en un quart d'heure. En un quart d'heure, ils ont 3-4 occasions, je crois.
Ah, ils font un super début de match. Ouais.
Et malheureusement, c'est Pléa, je crois, qui rate un face-à-face ou un truc comme ça.
C'est là que ce joueur, que franchement, je pense que tous les gens qui regardent du foot doivent adorer, parce qu'il a une telle progression et il donne tout pour l'équipe, et il arrive maintenant à conserver le ballon de haut but, à résister au pressing, ce qui était vraiment sa faiblesse avant. S'il avait la finition pour lui,
Il serait plus à Nice.
Déjà. Ouais, mais ce serait vraiment un top attaquant, hein, mais ce serait un très bon attaquant que tu verrais dans un club peut-être top 6, top 8 en Angleterre, quoi. Ouais. Parce qu'il a tout le reste, il l'a. Hein. Et le déplacement, qu'est-ce qu'il est fort dans le déplacement aussi. Alors ça, il l'a depuis toujours, mais il a réussi à apprendre le reste à un âge assez avancé quand même. Parce que là, il doit avoir 24 ou 25, je pense, Pléa, maintenant. C'est voir des joueurs progresser comme ça à cet âge-là qui motive un entraîneur, tu vois.
Mais sur ce match, ce qui est assez impressionnant et ce qui est très intéressant par rapport à la prestation, par exemple, de Balotelli au match aller, c'est qu'il couvre beaucoup plus de terrain et avec le marquage individuel quasiment de l'Ajax quand ça presse, ou en tout cas très orienté sur les adversaires, à chaque fois qu'il faisait une course, il embarquait un des 103 avec lui.
Ouais, c'est ça.
Et ça faisait du dégât.
Il est bon pour décrocher, ensuite partir dans la profondeur. Le mec est toujours en retard et tout. C'est un très bon attaquant de Ligue 1 pour le moment. J'espère qu'il deviendra plus que ça.
Ouais, en espérant qu'il ait pas de rechute, quoi, puisque il a pas été aidé par les blessures ces dernières saisons. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette première. On a
à peu près. Ouais. En tout cas, c'était une belle journée, une belle première journée de Ligue 1, je trouve. Tu vois, rien d'en parler, ça motive à voir la suite.
Ouais. Et de toute façon, la suite, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a déjà des matchs intéressants avec le Rennes-Lyon de vendredi soir. Attends, on va les donner rapidement là, les matchs.
Il y a la première d'un certain Brésilien en Rodourou, sans doute. Alors ce sera pas forcément titulaire, mais rien que de le voir entrer, ça va être surréaliste.
Guingamp PSG, après il y a du Dijon Monaco le dimanche, Strasbourg Lille.
Dijon Monaco, ça peut être sympa.
Strasbourg Lille dont on avait parlé tout à l'heure, Nice 3 aussi le vendredi, vu que Nice enchaînera avec son barrage en semaine.
Ouais. Je pense que si Nice perd les deux premières journées de Ligue 1 et met se qualifie en Ligue des Champions, c'est pas très grave.
Ah oui, totalement, ouais. Ça c'est sûr. Je pense qu'au niveau comptable, ils s'y retrouveront. Forcément au niveau des points, mais l'autre.
Si ça leur permet de conserver Seri ou de le remplacer correctement,
Ouais, c'est sûr. Et du coup, le samedi, Nantes-Marseille à 17h, Amiens-Angers, Girondins-Bordeaux, FC Metz, Caen Saint-Etienne et Toulouse-Montpellier. Donc voilà, alors on en parlera sans doute pas la semaine prochaine puisqu'on va sans doute se focaliser sur les championnats étrangers puisqu'on a la reprise de la Bundesliga et de la Première Ligue, je crois, le week-end prochain.
C'est ça.
Et on a une super coupe aussi d'Espagne le week-end. Et bon, ben voilà, on fera peut-être une spéciale Allemagne-Angleterre et une spéciale Espagne-Italie le week-end suivant, pourquoi pas. Puisque je crois que c'est à peu près le calendrier qui est prévu pour ce mois d'août.
C'est ça.
Voilà, allez, ben, on dit au revoir Raphaël.
Allez, ciao.
Salut, à la prochaine.